L'aiguille creuse, d'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Le coup de feu. Raymonde prêta l'oreille. De nouveau et par deux fois, le bruit se fit entendre, assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte. Elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent, dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes.
« Raymonde ! Raymonde !»
Une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras.
« Raymonde, c'est toi ! Tu as entendu ?
Oui, tu ne dors donc pas ?
Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillée, il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être ?
4 heures environ.
Écoute, on marche dans le salon.
Il n'y a pas de danger. Ton père est là, Suzanne.
Mais il y a du danger pour lui. Il couche à côté du petit salon.
Monsieur Daval est là aussi.
À l'autre bout du château. Comment veux-tu qu'il entende ?
Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler ? Crier au secours ? Elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri.
« Regarde ! Un homme près du bassin !»
Un homme, en effet, s'éloignait d'un pas rapide. Il portait sous le bras un objet d'assez grande dimension dont elles ne purent discerner la nature et qui, en ballottant contre sa jambe, contrariait sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparut subitement, et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds.
« Il venait du salon !»«
Non. L'escalier et le vestibule l'auraient conduit bien plus à gauche. À moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elles, une échelle était dressée contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme, qui portait aussi quelque chose, enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant
« Appelons, appelons au secours !»«
Qui viendrait ? Ton père ?» Et s'il y a d'autres hommes, et qu'on se jette sur lui ?
On pourrait avertir les domestiques. Ta sonnette communique avec leur étage.
Oui, oui, peut-être c'est une idée, pourvu qu'ils arrivent à temps. Raymonde chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra, et elles eurent l'impression que, d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes.
« J'ai peur, j'ai peur !»
répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymonde bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras.
« Non, ne me laisse pas, j'ai peur !»
Raymonde la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivie de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à trois pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les deux jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et deux brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne, courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre.
« Père, père, c'est toi ? Qu'est-ce que tu as ?»
s'écria-t-elle, affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit
« Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau, le couteau !»
À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des bougies. Raymonde se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger, et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba.
« Ça y est, ça y est !»
proféra l'un des domestiques.
« On le tient, celui-là ! J'y vais !»«
Non, Victor, il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. » Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymonde appela l'autre domestique. « Albert, vous le voyez, là-bas, près de la grande arcade ?»
« Oui, il rampe dans l'herbe. Il est fichu. »«
Surveillez-le d'ici. »«
Pas moyen qu'il échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. »«
Et Victor garde la porte à gauche, » dit-elle en reprenant son fusil.
« N'y allez pas, mademoiselle. »«
Si, si, » dit-elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. « Laissez-moi. Il me reste une cartouche. S'il bouge... » Elle sortit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre.
« Il s'est traîné derrière l'arcade. Je ne le vois plus. Attention, mademoiselle !»
Raymonde fit le tour de l'ancien cloître pour couper toute retraite à l'homme. Et bientôt, Albert la perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta. Et tout en surveillant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il y eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. 30 pas plus loin, il trouva Raymond qui cherchait Victor.
« Eh bien ?»«
Impossible de mettre la main dessus !»«
La petite porte !»«
J'en viens, voici la clé !»«
Pourtant, il faut bien !»«
Oh, son affaire est sûre! D'ici 10 minutes, il est à nous, le bandit !»
Le fermier et son fils, réveillés par le coup de fusil, arrivaient de la ferme, dont les bâtiments s'élevaient assez loin, sur la droite. Mais dans l'enceinte des murs, ils n'avaient rencontré personne.
« Parbleu, le gredin n'a pu quitter les ruines. On le dénichera au fond de quelques trous. »
Ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée, et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître. On visita tous les coins et recoins. Les recherches furent vaines. Une seule découverte. À l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymond, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien.